Professeur Harlet, bonjour.
Bonjour à vous.
Professeur Harlet, aujourd'hui nous allons parler du déficit immunitaire dit commun variable.
Voilà, je trouve intéressant et important de parler de ce qui va nous aider à nous défendre contre les infections, c'est notre système immunitaire. Ce système immunitaire peut être altéré et beaucoup d'entre nous connaissent ou tout au moins se sont penchés sur des déficits immunitaires qui sont génétiquement déterminés et qui entraînent des maladies, souvent avec des noms compliqués, pour lesquels ce sont des pédiatres hautement spécialisés qui vont traiter ces jeunes enfants qui, sans eux, attrapent toutes les infections qui passent. Alors, il existe des déficits immunitaires qui surviennent à l'âge adulte et qui méritent véritablement d'être connus pour la raison que, en fait, ceci entraîne des conséquences cliniques que sont essentiellement des infections itératives. Ces infections vont survenir avec une fréquence variable, mais peuvent entraîner des désordres, en particulier respiratoires, importants. Alors, c'est dans ce contexte que je veux parler de ce que l'on appelle les déficits immunitaires communs variables, qui sont généralement des déficits acquis au cours de l'existence et qui vont nécessiter une prise en charge tout d'abord diagnostique pour savoir de quel type il s'agit et d'autre part thérapeutique est importante parce que avec des moyens thérapeutiques simples on peut parfaitement changer la vie des gens lorsqu'ils sont régulièrement infectés au cours d'un déficit immunitaire.
Professeur, quels sont les symptômes attachés à ce déficit immunitaire ?
Alors, déficit immunitaire commun variable entraîne habituellement l'apparition d'infections itérative. Alors, ces infections sont les infections les plus banales du monde. Ce sont des infections ORL, des sinusites, des trachéobronchites, des pneumopathies, quelquefois des diarrhées itératives, qui sont dues au fait que les gens sont sensibles à une infection virale, bactérienne, quelquefois à champignons. Le propre de ces infections, c'est qu'elles récidivent dans le temps et que les gens sont constamment en train de consulter leur médecin, généraliste ou le médecin spécialiste ORL ou pneumologue ou gastro-entérologue et que constamment ils prennent des antibiotiques et de ce fait sont très soumis à la médicalisation. Voilà quels sont les symptômes, ils sont extrêmement banaux et ils doivent alerter par le fait de leur fréquence.
Au niveau de la fréquence de cette pathologie, quelle est l'incidence sur la population ?
Alors cette incidence reste limitée, on dit que c'est une personne sur 10 000 globalement dans la population française qui peut être touchée par ce déficit dit commun variable. Alors la bonne façon de détecter cela, ce sont des examens biologiques très simples qui permettent, tout simplement par exemple la réalisation d'une électrophorèse des protéines permet de détecter s'il existe une hypogammaglobulinémie ou bien une agammaglobulinémie. C'est bien souvent très tardivement que l'on fait ce genre d'examen, qui, peut l'avouer, reste quand même du domaine de la grande simplicité. Et le retard diagnostique sur les déficits immunitaires communs variables est jaugé bien souvent de l'ordre de 7 à 8 ans, ce qui paraît très très exagéré. Donc une électrophorèse des protéines sériques, et puis, tout simplement, un dosage pondéral des immunoglobulines permet habituellement de repérer s'il existe une hypo- ou agammaglobulinémie ou un déficit en immunoglobuline A ou en immunoglobuline G, qui sont habituellement les éléments de diagnostic de ces déficits communs variables.
Professeur Harlet, quels sont les protocoles thérapeutiques existants à l'heure actuelle concernant cette maladie ?
Alors, puisqu'on a bien intégré qu'il s'agit de déficit de ces immunoglobulines, dans l'immense majorité des cas, il est très simple de donner à ces patients des immunoglobulines. Alors, jusqu'à un temps récent, donner ces immunoglobulines nécessitait de la réalisation de perfusions, car ce sont des immunoglobulines qui sont administrées par voie intraveineuse. Cette perfusion devait être réalisée jusqu'à présent en milieu hospitalier. En fait, depuis 2 années, il existe une autorisation de mise sur marché qui permet de faire ces perfusions à domicile, ce qui permet aux gens d'avoir une perfusion à domicile une fois par mois ou une fois toutes les 5 semaines. et de cette façon de voir disparaître, mais véritablement disparaître, les problèmes infectieux qui étaient les leurs. Il existe même à l'heure actuelle des formules de gamma-globuline qui peuvent se faire par voie sous-cutanée, qui peuvent là encore être réalisées à domicile et qui très souvent simplifient la prise en charge thérapeutique dans la mesure où certaines personnes peuvent parfaitement s'éduquer pour faire elles-mêmes ces injections sous-cutanées de gamma-globuline.
Professeur, si j'ai bien compris, on ne guérit pas de cette maladie.
Alors on n'en guérit pas, effectivement. En revanche, on guérit des conséquences de cette maladie que sont les infections itératives. Et nous voyons très régulièrement des patients qui ont traîné pendant plusieurs années avec des infections itératives, encore une fois, des sinusites à n'en plus terminer, des pneumonies et quelquefois des pneumonies graves, qui en fait voient se résoudre totalement ce problème dans la mesure où on a détecté tout simplement ce déficit. Alors il existe à côté de cela des déficits acquis qui sont dus à d'autres maladies comme par exemple des syndromes lymphoprolifératifs au cours desquels existent des hypogammaglobulinémies ou bien même des myélomes multiples des os. Dans ces cas-là, même chose, un traitement substitutif par gammaglobuline intraveineuse peut permettre de diminuer, voire de faire disparaître les conséquences infectieuses de ce déficit.
Professeur Arlet, est-ce qu'il y a des pistes concernant donc un traitement à base de génie génétique?
Alors, votre question est excellente et vient à point nommé. En effet, il existe depuis 4 à 5 années un vaste club national qui s'est donné pour mission de recueillir de la part de chaque personne ayant un déficit immunitaire commun variable un certain nombre de données. Car en effet, on a l'impression qu'une part génétique existe dans la détermination de ces déficits immunitaires, même lorsqu'ils surviennent à l'âge adulte. Et cette entité nationale permet d'obtenir des moyens financiers de recherche pour démembrer les causes sous-jacentes à ces déficits immunitaires qui sont assez multiples, qui nécessitent effectivement des moyens de génie génétique. Quant à l'arrivée ensuite d'un véritable traitement, il est très probable qu'il y aura des possibilités de traitement variables en fonction de l'étiologie. On sait que les premiers essais de thérapie génique ont été réalisés chez des enfants qui ont des déficits immunitaires congénitaux. On est pour l'instant assez loin de l'utilisation en routine et je dirais assez loin de l'utilisation chez les adultes. Néanmoins, pour l'instant, et j'insiste, un traitement simple par des immunoglobulines régulièrement transfusées chez des gens qui en nécessitent leur permet de ne plus être malade.
Professeur Arlet, je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie à vous.